Mes frères bien-aimés, aujourd'hui ne nous y trompons pas, c'est à un grand homme que nous avons affaire. Surtout ne nous fions pas à l'apparence de Zachée, sa petite taille, sa timidité, qui pourrait nous faire croire que c'est un être dérisoire qui se trouve en face de nous. Non, non et non. En fait, Zachée est ni plus ni moins le modèle parfait du pénitent que le Saint-Esprit a voulu donner à tous les siècles. Le modèle parfait de celui qui se confesse, le modèle parfait de celui qui se convertit. Autrement dit, il est notre modèle à nous tous, nous qui sommes des pécheurs, qui devons sans cesse revoir notre vie et qui devrons le faire jusqu'à notre départ pour le ciel. Bon, cela étant dit, quelle est donc la grande différence qui existe entre lui et nous? Qu'est-ce qui fait de lui un exemple si éloquent pour nous? Eh bien, comparons simplement la manière avec laquelle nous nous confessons et la manière avec laquelle lui s'est confessé dans l'évangile du jour. Chez lui comme chez nous, cela se fait en trois étapes identiques, mais c'est la manière de les vivre qui diffère. La première étape avant la confession est composée de l'examen de conscience par lequel nous reconnaissons nos péchés, de la contrition par laquelle nous regrettons nos péchés et du ferme propos par lequel nous formulons le vœu d'éviter à tout prix ces péchés à l'avenir. Qu'il s'agisse de Zachée ou de nous-mêmes d'une manière générale, même si ce n'est pas toujours parfait ou que nous n'en avons pas toujours conscience, nous passons par ces trois phases, et ce sont d'ailleurs elles qui nous amènent à recourir au sacrement de la réconciliation. Si on n'a pas l'impression d'avoir péché, si on ne le regrette pas, si on ne veut pas changer, on reste chez soi. La deuxième étape, la confession en elle-même, se découpe elle aussi en trois phases. Il y a tout d'abord l'aveu, où le pénitent remet ses péchés dans le cœur de Dieu à travers le prêtre. Puis il y a le conciliabule, où le confesseur et le pénitent discernent les remèdes à appliquer à l'âme blessée. Et enfin, il y a l'absolution, où le confesseur pardonne au nom de Dieu tous les péchés du pénitent. Là encore, qu'il s'agisse de Zachée ou de nous-mêmes, à part si nous sommes fourbes et que nous cachons à Dieu nos péchés qu'il connaît déjà, l'empêchant par là de les pardonner. À part ce cas, nous parcourons ces trois stades. Vient alors la troisième étape, après la confession, que l'on appelle réparation ou pénitence ou satisfaction, et à travers laquelle nous réparons les conséquences de nos péchés. Eh bien, mes frères, vous l'aurez deviné, c'est là qu'il y a une différence colossale entre Zachée et nous. Mais pour bien saisir cette différence, il convient de faire un petit rappel. Tous les actes que nous posons ont des conséquences, je ne vous apprends rien. Pour être précis, des conséquences célestes et terrestres. Et dans le cas d'un péché, ce sont bien évidemment des conséquences néfastes. Eh bien, lorsque nous allons nous confesser, ce qui est effacé par un miracle de la grâce, ce sont les conséquences célestes. C'est-à-dire que nous sommes de nouveau en parfaite union avec tout le paradis. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, tous les saints et tous les anges. En une seconde, et c'est ahurissant, du côté du ciel, tous nos péchés sont néantisés. Mais leurs conséquences terrestres demeurent. Pour prendre un exemple tout simple, si vous avez tué quelqu'un, je prends un exemple du quotidien, afin qu'il parle à tous. Si vous avez tué quelqu'un, à la sortie d'une confession sincère, votre âme est pure, votre lien à Dieu est limpide. Mais la personne assassinée ne ressuscite pas. Et demeure aussi tout ce qui va avec. La haine de la famille, de la victime. L'éventuel désespoir éprouvé par l'assassin. La spirale du mal dans laquelle il s'est embarqué, etc. Voyez, la confession n'est pas une formule magique qui gomme les conséquences terrestres. Aussi, si nous voulons les gommer, autant que faire se peut, c'est à nous que cela revient. Et c'est là justement la finalité de la troisième étape de la confession. Eh bien, force est de constater que sur ce plan-là, Zachée est à des années-lumière de nous. De notre côté, après la confession, que fait-on? Pieusement, on va vers l'autel de la Sainte Vierge, on prie un pater, trois ave, et puis on passe à autre chose. Eh bien, du côté de Zachée, nous venons de l'entendre, ça n'a rien à voir, et c'est impressionnant. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Non seulement il répare ses fautes en surabondance, je vais rendre quatre fois plus, mais en outre, il contrevient à d'éventuelles rechutes. en posant un acte qui n'est pas nécessaire en termes de justice, mais qu'il veut accomplir pour tuer en lui l'amour de l'argent, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Franchement, ce n'est pas édifiant, ça, mes frères. Qui d'entre nous en fait autant ? Et bien que cela soit dit une bonne fois pour toutes ce matin, si nous ne nous convertissons pas, si nous confessons toujours les mêmes péchés, c'est tout simplement parce que nous négligeons cette troisième étape de la confession. Nous avons calomnié sur Jean-Louis, mais nous n'allons pas lui demander pardon. Et nous n'allons pas dire aux personnes concernées que ce que nous avons dit sur Jean-Louis était faux. Nous avons volé de l'argent à nos parents, mais nous n'allons pas leur demander pardon. Et nous ne faisons pas de sacrifice pour économiser et rendre à nos parents ce qu'on leur a pris. Et ainsi, nous ne changeons pas ce qui est déjà honteux. Mais il y a encore quelque chose de plus dramatique, et c'est que par notre mauvais exemple, nous empêchons ceux qui sont hors de l'Église d'y entrer. Car en nous voyant agir avec une telle légèreté face à la confession, ils sont outrés par notre hypocrisie et ils se disent que les sacrements ne servent à rien. C'est là exactement ce que reproche, dans un roman de Graham Greene, un lieutenant communiste mexicain au prêtre qu'il vient d'arrêter pour le fusiller, tant il est révolté par le catholicisme qu'il incarne. « Qu'avez-vous jamais fait pour nous au Mexique ?» lui interjette le lieutenant. « Avez-vous jamais dit à un propriétaire terrien qu'il ne devait pas battre son esclave ?»« Oh oui, je sais, vous le lui dites dans le confessionnal, mais votre devoir est alors de l'oublier immédiatement. » Et vous sortez de là, et vous dînez avec le dit propriétaire, et votre devoir est d'ignorer qu'il a massacré des paysans. On n'en parle plus, il a abandonné cette bagatelle dans votre boîte à l'église. Ah, mes frères, si nous n'agissons pas comme Zachée, si nous ne cherchons pas à réparer nos péchés sur un plan humain, la critique de ce communiste sera tout à fait légitime, et les non-croyants resteront hors du giron de l'église. D'ailleurs, si nous demandons vraiment pardon à la confession, pardon par amour de Dieu et des autres que l'on a blessés, on veut réparer le tort qu'on leur a fait. Sinon, c'est le signe que notre pardon est faux, que c'est juste un pardon d'orgueil pour soi-même, pour calmer nos scrupules et avoir l'impression d'être en règle avec Dieu. Non, il faut que la confession engendre de vrais changements en nos vies, et pour cela, il faut qu'elle engendre de vraies réparations auprès des autres. C'est comme pour un cancer. Si nous voulons l'éradiquer, non seulement nous devons extraire son foyer, mais nous devons également éliminer toutes ces métastases, toutes les cellules cancéreuses qui se sont propagées dans le corps. Et pour cela, il faut parfois se battre durant des années. Eh bien, avec nos péchés, nous devons faire la même chose. Par la confession, nous assainissons le foyer du péché qu'est notre âme. Mais nous devons ensuite assainir les conséquences de ce péché par la réparation. Alors bien sûr, il y a des choses que l'on peut réparer, en totalité ou en partie, comme un vol ou un mensonge. Et il y a d'autres qu'on ne peut pas réparer, comme un meurtre ou une blessure grave. Pour autant, même dans ces cas-là, la partie n'est pas perdue, car nous pouvons toujours accomplir des actes de bonté qui contrebalancent alors le mal irréparable, qui le rachètent. Des actes de bonté qu'on pourra choisir avec le confesseur. En résumé, mes frères, si nous voulons devenir des êtres lumineux qui attirent les âmes dans les bras de Dieu notre Père, si nous ne voulons pas rester ténébreux et ainsi empêcher à certains d'accéder au royaume à cause de notre opacité, rappelons-nous la parole du Christ, « Malheureux êtes-vous parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas. Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Si donc nous voulons éviter ce cas de figure, anéantissons nos péchés par la confession et anéantissons leurs conséquences par une belle réparation. L'amour sauve tout, rachète tout, affirmait l'écrivain russe Théodore Dostoïevski. L'amour est un trésor en échange duquel on peut acquérir le monde entier, racheter ses péchés et même ceux d'autrui. Il a raison, mais encore faut-il aimer, aimer vraiment, en demandant pardon, puis en réparant. Amen.